Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
Ago, I released movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission.
I go to America!
Borat!
What do you say? No, it's not me.
Borat, come back!
People make recognize my face. I would need disguises.
This man is a sex criminal?
No, no sex friendly.
I will take this to be a fat like American man.
Yeah, this is a good one.
Allez, Borat, nouvelle mission filmée. Deux points, livraison bakchiche prodigieux pour régime de l'Amérique au profit autrefois glorieuse nation Kazakhstan. Évidemment, Sacha Baron Cohen nous livre un Borat 2. On va l'appeler Borat 2 gentiment. On n'est pas bête. Faux documentaire, même principe que le 1 sorti 15 ans après, déjà. C'était 2004, je crois, Borat. C'était quand ?
2005, non ?
2005. Allez, bon, on va dire une quinzaine d'années après. Ouais. Nam, on va commencer. C'est le même principe, donc il n'y a même pas envie de donner un pitch ou un contexte. En fait, c'est Borat 2 qui va essayer de piéger l'administration Trump, les Amériques...
Les gens qui croisent.
Les gens qui croisent,
c'est un peu ça. Oh, il y a un peu... Il y a un fil rouge.
Hein. Alors, quel est le fil rouge, Vincent ?
Parce que Borat, on le reprend... Quand il est rentré chez lui, bah, c'est pas trop plus la glorieuse nation du Kazakhstan. Mm-hmm. Du coup, on le retrouve en train de casser des cailloux dans une sorte de bagne kazakh. Mm-hmm. Et bon, coup de théâtre, on le renvoie aux États-Unis pour qu'il aille offrir un singe acteur porno à Mike Pence comme cadeau pour redorer le blason du Kazakhstan. Je trouve que la vanne est quand même assez engagée et plutôt drôle. Et donc oui, après tu retrouves et t'as ce système de caméra cachée comme t'avais eu dans Borat et dans l'infâme Bruno.
Et eh bah, ben, c'est quoi, j'ai bien aimé Bruno.
Mais surtout, faut parler de sa fille qui le rejoint.
Et oui.
Et oui, voilà. Parce qu'à la place du singe acteur porno, il y a sa fille qui est à l'intérieur de la boîte. Et le singe acteur porno s'est fait dévorer
par la fille.
Très bien. Très bien. Car ces gens-là sont des animaux.
Bah, c'est des étrangers, donc c'est des arriérés.
Voilà.
Ouais.
Lila. J'ai une question. Est-ce que le scénario est écrit sous drogue ou joué au dé?
Alors.
Peut-être les deux.
J'ai mon avis dessus. Nam, tu dis peut-être les deux.
Bah en fait, moi, je pense... Alors, je dirais qu'en fait, il y a un fil rouge, mais je pense qu'ils font peut-être un... Je pense qu'il y a beaucoup plus de rush de scènes qui ont été tournées que ce qu'on voit, forcément. Et ils prennent ce qui les arrange pour faire le fil rouge. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça, le délire. Ou alors, ils tournent quelques scènes en plus à côté pour faire un peu de mise en scène, pour raconter une histoire, Mais bon, après, de toute façon, dans Borat, ce qui est intéressant, c'est quand il est confronté à des vrais gens de la réalité véritable.
Ouais. Ça donne quoi, justement ?
Alors, moi, je dirais que le... Comment ? Ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier, c'est le décalage qu'il a avec les vrais gens. Et dans celui-là, je trouve qu'il les force un peu trop à s'exprimer ou à les faire rentrer dans son jeu. Surtout que des fois, c'est dans des situations où... Après bon, c'est toujours pareil, c'est un best-of de sketchs qui ont été tournés. Et donc, par exemple, je pense à la boulangère qui écrit un truc antisémite sur son gâteau. On sait pas depuis... Enfin, ça se trouve, ça fait 20 minutes qu'il lui dit des conneries. Et au bout d'un moment, la meuf, elle a abandonné. Juste, fait bah oui, ok, je lui écris son truc. De toute façon, il va payer machin. Donc voilà, je lui fais. Et puis,
c'est la 14e boulangère qu'il est allé voir.
C'est possible. Tu vois, il peut avoir des trucs comme ça.
Ouais, après, en l'occurrence, t'as plein de moments qui sont comme ça. Où il est avec... Parce que là, bon, vous avez bien compris qu'on n'est pas...
Ça vole pas
Et puis, on est aux États-Unis, on n'est pas à San Francisco ou à New York. On est plutôt dans des coins reculés. Où les mecs, on sait vraiment pour qui ils votent de base. Où là, t'as le truc avec le gâteau, donc ouais, peut-être qu'il a un peu forcé le truc. Mais t'as tellement de scènes à côté, quand il veut acheter une cage pour sa fille, que les mecs voient pas de problème, ou qu'il demande, il veut acheter un mec une bouteille de gaz pour tuer des gitans. Il dit, est-ce qu'avec ça, je pourrais en tuer 20? Le mec dit, ouais, non, vaut mieux que vous preniez la plus grosse à côté si vous voulez tuer 20 gitans. Tu vois, les mecs, ils sont même pas outrés.
Par rapport au. En fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis, faire ça. Bon, je vais être péchant, mais c'est un peu facile. Parce qu'aux États-Unis, le client est littéralement roi. C'est-à-dire que si tu refuses, si tu envoies chez ton client, le mec il te colle un procès et tu le perds. Donc de toute façon, la personne, le vendeur est piégé de toute manière parce qu'il est obligé d'accepter et de rentrer dans le jeu. Bah, aux États-Unis, tu peux porter plainte pour un. contre un vendeur si le mec il ouvre son magasin 5 minutes trop tard, tu vois. Ouais. On est dans ce genre de délire aussi. Ouais, donc de toute façon les gens ils sont obligés de rentrer dans le jeu.
Et du coup pour toi ça nuit au film parce que
je dirais pas que ça nuit au film, je dirais juste que du coup il y a certaines de ces scènes il y avait pas autant de vendeurs je trouve dans le premier film.
Ouais, ouais.
Mais du coup là dans celui-là c'est un peu trop forcé je trouve, parce que le mec de toute façon est obligé de rentrer dans le jeu.
Justin.
Oui, je vais demander par rapport au premier film où justement entre les deux films Borat est devenu un peu une icône de la pop culture. Comment fonctionnent les happenings, le naturel des happenings, lorsqu'il y a
ce genre de scène. Ça, c'est vite vu dans le film. Tu le vois, il se fait courir par des mecs en disant « Ouais, Borat, viens nous voir, on prend des photos. » Et donc, pendant tout le film, il y a un système où il se déguise avec un déguisement où il est plus gros, il se met des faunets, des perruques. Des trucs comme
ne
ça.
Ne serait-ce qu'une barbe en fait, et t'as plus la moustache. Et voilà.
D'accord, donc il arrive comme à recréer le malaise qu'on avait donc par un moment dans le premier, malgré tout. Okay.
Tout à fait. Vincent, du coup
Moi j'ai trouvé ça très drôle, je n'attendais pas grand-chose. Le film est sorti, on nous avertit 2-3 mois avant. Personne n'était au courant, c'est tourné un peu dans le plus grand des secrets.
Moi je l'ai découvert la semaine de la sortie.
Hein. Voilà, oui, en plus. Moi j'ai un pote qui a bossé sur une agence de d'influencing et qui a bossé sur la sortie.
Ouais.
J'en parlerai encore avec lui vendredi, qui me disait que c'est vrai que. Je crois que c'est Universal. Non, c'est pas Universal. Donc quand ils ont eu le projet, en fait c'est sorti un peu dans les moments. C'est Baron Cohen qui a poussé pour que le film sorte là. Parce que maintenant, quand on aurait eu ce tournage, on doit être à. Le podcast, on est à 10 jours, 12 jours de l'élection de Trump.
Ok.
Le film est sorti il y a 4 jours. Un truc comme ça, deux jours. Et Baron Cohen a poussé, ça sort maintenant. Un truc qui a été tourné pendant le Covid.
Ouais.
Et pendant le confinement, parce qu'en fait, du coup, le premier film qui traite du Covid, avant lockdown Italia, je sais pas si vous avez vu l'affiche qui passait sur les réseaux sociaux, ça a l'air terrible, c'est une affiche sur le confinement italien, du coup, italienne.
D'accord.
Et en France, nous, on a un autre film qui a l'air vraiment dur. Après, c'est toujours le truc des caméras cachées, donc ils sont très friands, d'autres non. Moi, c'est plutôt quand elles sont bien réalisées parce que t'en as vu tellement aujourd'hui que souvent ce qui est drôle, c'est pas le concept de ton truc, c'est plus le mec qui piège les types.
Ouais.
Là, en l'occurrence, c'est Baron Cohen, donc il est pas trop mauvais, il connaît bien son truc. Il a fait sa série aux États-Unis il y a pas si longtemps. Donc, tu vois que le mec il a de la bouteille, puis il a pas peur de sauter de la gueule des gens, quitte à s'en prendre une.
Mmh.
T'as toujours des moments où t'as vraiment envie de regarder ailleurs que ton écran quand la scène commence
à
vraiment... Bah, ça m'arrive, quand c'est trop gênant. Notamment une scène qui se passe dans une synagogue où Baron Cohen arrive avec un déguisement. J'en dirai pas plus sur le déguisement, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Voir deux femmes, et c'est quand même extrêmement insultant. Moi, à ce moment-là, c'est vrai que j'étais obligé de détourner mon regard de mon ordinateur, tellement c'est ça que j'étais un peu outré.
Moi, cette scène... je vais être... Les blagues racistes, antisémites, bon, pour moi ça passe, ça va. Par contre, toutes les blagues sur l'inceste ou les agressions sexuelles, ça me fait moins rigoler. Et pour le coup, je pense notamment à la dernière scène, à l'hôtel,
avec Rudolph Giuliani,
extrêmement gênante. Ouais. Parce que ils mettent en scène une agression sexuelle, mais qui est demandée par l'actrice. Parce que c'est elle qui force le truc quand
c'est
même.
C'est pour ça que je parlerai pas d'agression sexuelle. Je pense que les gens ont dû en entendre parler. Parce que là on en parle beaucoup de cette affaire là. Parce qu'au moment Borat piège Rudolph Giuliani, qui est l'avocat de Trump, qui est un ancien maire républicain de la mairie de New York. Qui est un mec qui a un âge canonique aujourd'hui. Et il y a la fille de Borat qui, après un relooking, le drague. Et sur la chambre d'hôtel, ils vont dans la chambre. Là, il y a la scène qui a popé un peu partout sur les réseaux, où t'as Rudolph Giuliani qui met une main sur la hanche et qui commence un petit peu à se toucher les parties intimes en mettant la main dedans. Lui, il dit qu'il a enlevé sa chemise, je sais pas quoi, qu'il la remettait en place. Et à ce moment-là, t'as Baron Cohen qui débarque en string, musette, et qui arrête le truc au dernier moment. Donc c'est vrai que dire agression sexuelle, c'est compliqué d'attaquer le mec sur ça, vu que la meuf paraissait manifestement...
Le truc, c'est que il stoppe le truc.
Ouais, heureusement.
Je sais, mais le truc, c'est que pour le coup, il cherchait cette scène.
Oui,
tu
c'est
vois.
Ça.
Et complètement.
C'est ça que je trouve extrêmement gênant.
Ah oui.
C'est que,
Pourquoi chercher cette scène
pourquoi faire ça? Ça n'apporte pas rien au film en fait.
C'est d'accord. Pour taper sur l'Amérique de Trump.
Non, mais je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même des manières plus subtiles de faire. Par exemple, tu vois, alors le fait qu'il ait passé, je sais pas combien de temps, en confinement avec deux rednecks, ça c'est très marrant. Le fait qu'ils écrivent, enfin les mecs écrivent une chanson et lui il les chante sur scène, t'as le public qui reprend ça en chœur, ça c'est très rigolo. Mais le côté.
Ah oui, c'est un sale coup, hein. C'est vraiment un sale coup.
Là, je trouve ça vraiment très malaisant en fait, comme
puis on sort de la comédie. On sort de la comédie.
On est plus dans la comédie. Ouais.
Non, c'est un côté un peu. Ils voulaient aller chercher leur grande scène finale où il y a une personnalité connue qui fait quelque chose de condamnable par la loi. Sauf que ils font tout. En fait, ils poussent la situation pour vraiment.
C'est ça.
Et je me dis, d'un coup, on n'est plus dans la dénonciation de que le personnage soit réac ou soit un gros porc ou machin, mais plus dans le côté un peu j'ai envie de voir le vieux monsieur en train de mettre la main sur la hanche de la madame. Et pourquoi, enfin, il y a déjà assez de scènes comme ça qui se passent en vrai tout le temps. Pourquoi aller chercher cette représentation là qui est forcée? Enfin, faire de la représentation forcée d'une agression forcée, je sais pas, je trouve ça outre que ça soit condamnable ou pas, foncièrement c'est pas marrant quoi, c'est vraiment pas marrant. Après moi j'ai ma seule avis sur le film, j'ai vu aussi pour le coup, j'étais très très peu sensible à l'humour. Pour moi, comme tu dis Nam, c'est il va chercher des gens, il met bite ou fesse ou chatte dedans et forcément la personne en face de lui réagit de manière incrédule. Scène suivante, tu remets une bite ou une chatte ou un moment, tiens, il y a la meuf qui a montré ses règles, les gens regardent de manière incrédule.
Mais au final, moi les scènes qui m'ont plus fait rigoler, c'est quand ils vont dans le truc du premier bal. Ils font leur choré à la con.
Avec les règles, ça.
Ouais, avec les règles. Pour tout ça, j'ai trouvé ça marrant, mais c'est plutôt trouvé ça marrant parce que t'as les réactions des gens. T'as cette scène où t'as une. T'as Borat qui demande à un type, ma fille, tu penses qu'elle vaut combien? Le mec il répond 5 000 $, et t'as la fille du mec à côté qui se retourne vers son père, il fait, c'est dégueulasse. Ouais. Et elle te fait, d'accord. Ou alors quand la fille, elle est dans ce truc de femme républicaine où elle dit j'ai touché ma chatte, y a pas dedans et c'est trop bien. Et là pour le coup t'as trois réactions, y a une scène où il te montre trois réactions. T'as une personne qui se lève et qui se casse, t'as une personne qui applaudit en mode c'est ça, ferme ta gueule, on avance, et t'as la dernière qui se marre. Ça, c'est le genre de truc que je trouve marrant, tu vois. Mais après c'est quand c'est trop forcé, je trouve que c'est tu perds
Je pense que c'est vrai qu'il y a des vannes qui vont un peu trop loin. Après, ça fait le charme de Borat, même si tellement tant que c'est pas forcément pertinent.
Mais
sur 1h30, on cale je ne sais combien de vannes. Ouais. C'est vrai qu'elles peuvent pas toutes réussir. Bon, il y en a qui sont même franchement de mauvais goût. Mais bon, quand tu vas avec Borat, la pub, c'est un mec qui a un string géant, tu vois. Enfin, tu sais que tu vas pas aller chercher un humour très raffiné là-dedans.
Mais après, tu vois, genre dans le premier, j'ai quand même l'impression que il y avait plus de blagues. Comment à l'intérieur du film où il faisait pas rentrer les gens dans le délire. Par exemple, je pense à cette scène. Bah, tu vois, par exemple, tu parlais quand il va dans la synagogue. Dans le premier, t'as une scène où il va dans les maisons d'hôtes chez deux petits vieux juifs. Les vieux ils sont sympas et tout. Et au final, c'est eux qui se font en délire dans la chambre à côté sans les inclure. Et puis ils se cassent par la fenêtre en plein milieu de la nuit parce qu'ils ont foutu des faux cafards par terre ou un truc comme ça. Enfin, c'est où ils ont balancé des billets au sol, je sais plus. Enfin, c'est une grosse connerie, tu vois. Mais y a pas ce côté où ils sont allés les voir directement en faisant des blagues antisémites.
C'est peut-être un peu plus subtil et un peu moins.
C'est moins
in your face tout le temps. Quoi.
C'est moins je me fous de la gueule des gens dans le premier. Dans le second, j'ai l'impression qu'ils se foutent vachement plus de la gueule des gens. Mm-hmm.
En fait, moi ce qui me gêne, c'est que peu importe que ce soit des démocrates, des républicains ou nous, ça serait la même situation. C'est-à-dire que il arrive et il me montre sa bite en disant regarde, j'ai ma bite, c'est pas une bite de juif, parce que c'est à peu près le niveau du, c'est à peu près le niveau du film, l'humour du film. Tout le monde a la même réaction, quoi. Genre, casse-toi, t'es pas marrant.
Oui.
Donc, je vois pas trop l'intérêt de forcer les gens à avoir cette réaction-là. Autant, et sachant qu'en plus, ça reste des Trumpistes, des gens qui savent très bien être ridicules par eux-mêmes. Donc, pourquoi leur offrir une porte de sortie? Je sais pas.
Tu
peux ne pas être d'accord.
Je trouve que le mec, il va vraiment. Autant dans le premier. c'est on parlait de l'Amérique, là on parle vraiment de l'Amérique de Trump.
Je sais pas.
Il est beaucoup plus politisé, et c'est que les Rihanna, enfin, les mecs, ils sont. Ils sont quand même pas présentés sur leur meilleur jour. Hein.
Non, mais bien évidemment. Mais en fait, j'ai presque, ça leur donne presque une excuse, quoi. C'est genre, bah, y a un con qui arrive devant eux et ils réagissent, enfin, ils réagissent comme tout le monde, quoi. C'est bizarre et pouf. J'ai
ouais, pas mais après,
t'as un pamphlet politique.
Quand il est avec les deux Rihanna du confinement qui sont vraiment deux mecs d'avoir un QI. Vraiment très très bas. Non, mais là il est pas en train de bah, t'as deux trois vannes où il fait des trucs un peu à la con, il monte son cul etc, mais là généralement il parle avec les types et il dit ah mais et il est intrigué, il dit oui mais madame Clinton elle boit du sang de bébé, et lui il est intrigué, ah ouais et tout, c'est vrai, et t'as une discussion qui est tout le temps comme ça où c'est vraiment bah, lui qui force pas le trait, c'est eux qui se mettent ouais. Ils disent n'importe
mais
quoi
vois, par exemple le truc avec les deux Rennecs, à quel point c'est mis en scène.
Et ça, je sais pas.
Parce que il y a des caméras absolument partout.
Bah les caméras, il est bon, donc après tu peux dire oui, il y a un reportage sur moi. Mais surtout que.
Parce que les mecs, ils acceptent quand même, parce qu'ils partent en confinement, ouais, ils acceptent qu'il y a un type qui vienne chez eux avec une équipe technique. Tu vois, genre, à quel point le truc est.
Ouais, bah, ça, je me suis toujours demandé. Bah, parce que, comme dans le premier, je me suis dit à quel point c'était vrai ou pas le coup de Pamela Anderson, si c'était complètement mis en scène ou si vraiment il essayait de la kidnapper. Je me suis toujours demandé ce truc. C'est pas la réponse ?
Non. Pas du tout la réponse. Bon. Bon, en tout cas, Borat 2, ça. Écoute, il y a eu des avis un petit peu partout. Il y a eu du négatif, il y a eu du positif. J'ai envie de croire en la bonne foi de Vincent.
Moi, je me dis, ouais, si tu le regardes sans trop te poser de questions, ça
oui, évidemment.
C'est, en fait, c'est à partir du moment où tu commences à creuser, ça commence à être très chelou quand même pour passer à ton côté.
Puis on a réussi à parler de Borat sans que personne ne fasse une imitation qui est.
Oui,
gêné tout le monde.
Non, moi, je suis très mauvais en imitation.
Ouais,
je me lance jamais dedans.
Bah, je me suis entraîné pendant deux jours pour parler à 15 minutes de Borat avec l'accent, mais
non,
j'ai préféré laisser tomber.
Sobre, la sobriété, toujours. Merci beaucoup pour vos avis sur Borat 2.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critiques, analyses, débats, quiz, coups de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.